Bonjour et bienvenue pour cette deuxième séance sur le livre des Nombres. J'espère vous n'avez pas trop envie de sieste parce que nous allons parler de beaucoup de chiffres, de nombres dans un premier temps avant de passer à l'ordalie concernant une femme supposée d'être adultère. Je voudrais juste, par rapport à l'introduction, reprendre une hypothèse qu'on va déjà voir tout de suite vérifiable avec l'histoire de la femme adultère. Cette idée dont je vous ai parlé la semaine dernière, selon laquelle le livre des Nombres, en fait, c'est le dernier livre du Pentateuque qui a vu le jour. C'est-à-dire, en fait, les ensembles, Genèse, Exode, Lévitique, étaient déjà clos. De l'autre côté, il y avait le Deutéronome. Et si on voulait encore ajouter des compléments à la loi, on ne pouvait plus tellement les intégrer dans ces livres-là. Donc il fallait en fait inventer, en quelque sorte, les nombres. Et ça, vous le voyez très bien. Si vous regardez la conclusion, ou une double conclusion du livre du Lévitique. Le livre Lévitique aussi a connu deux conclusions. D'abord, le livre s'est arrêté au chapitre 26, et après on a encore ajouté le chapitre 27, en reprenant en fait plus ou moins la même conclusion. Tels sont les commandements, je me contente du chapitre 27, tels sont les commandements que Yahvé a prescrits à Moïse pour les fils d'Israël sur le mont Sinaï. Donc vous voyez très bien, c'est une conclusion. Alors qu'est-ce que vous avez maintenant au début du livre des Nombres ? Les Nombres commencent par « Et Yahvé parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. » Est-ce que vous voyez une différence ? On est toujours encore dans le Sinaï, mais on n'est plus sur la montagne. C'est maintenant dans le désert du Sinaï. Comme si le rédacteur de ce titre voulait déjà montrer en fait un statut différent des prescriptions du livre des Nombres. Ils ne sont plus communiqués sur la montagne, où c'était le lieu privilégié du contact qu'avait Moïse avec Yahvé. Ce que nous avons maintenant dans le livre des Nombres, ce sont en effet des lois. On est toujours lié au Sinaï, mais on est déjà en quelque sorte dans le désert. Et vous pouvez très bien voir, je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails, mais vous pouvez voir qu'après les recensements, sur lesquels nous allons revenir dans un instant, les lois, les prescriptions qui sont données, en fait, c'est des textes qui auraient beaucoup mieux trouvé leur place dans le Lévitique, dans l'Exode, ou encore dans le Deutéronome. Par exemple, l'exclusion des personnes lépreuses ou affectées des maladies cutanées, ça correspond à Lévitique 13, où le sacrifice de réparation s'est traité en Lévitique 5. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ajouté ce complément-là ? Ou encore, le cas sur lequel nous allons nous pencher, la femme adultère, en fait, ça aurait pu être un bon complément à Deutéronome 22, où l'adultère est traité, je vous le montrerai, dans tous les détails. Idem, les offrandes pour la dédicace du sanctuaire, le chandelier, tout ça aura eu beaucoup mieux sa place à la fin du livre de l'Exode. Également, les prescriptions encore autour des personnes impures au moment de la Pâque ou ceux qui sont en voyage, on aura pu le mettre après Exode 12. Donc on ne l'a pas fait, et je pense que ça confirme un peu cette idée que ces ensembles-là n'admettaient plus qu'on ajoutait encore des grandes choses. Donc il faut vraiment vous imaginer le livre des Nombres comme un pont pour lier en fait les deux grands ensembles, Genèse, Exode, Lévitique et le Deutéronome. Nous avons vu la semaine dernière que le livre des Nombres doit son nom surtout à ces deux grands recensements que nous avons au chapitre 1 et au chapitre 12. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu, est-ce que vous avez lu ce recensement ? Oui ? Alors, si quelqu'un peut m'expliquer. Tous les nombres, je lui payerai une belle bouteille de champagne. On reviendra là-dessus. Première chose qu'il faut dire, évidemment, vous avez là d'abord la construction d'Israël, on peut dire que c'est assez traditionnel, puisqu'on a un peuple organisé en 12 tribus. Mais en même temps, il y a déjà une différence par rapport à des listes plus traditionnelles. Première différence, c'est que Lévi, qui évidemment dans la Genèse est un des fils de Léa, il n'apparaît plus du tout dans cette liste. On parlera beaucoup des Lévites dans la suite, mais dans le comptage du chapitre 1 et du chapitre 26, il n'y a plus de Lévi. Alors comment va-t-on faire pour arriver à 12 ? Il faut trouver une combine. Et la combine, c'est en effet de considérer la maison de Joseph, c'est-à-dire de partager Joseph en deux, car selon la Genèse, Joseph a deux fils, Éphraïm, Manassé, qui correspond évidemment aussi à des régions dans le nord d'Israël. Et c'est exactement ce qu'on va faire pour obtenir le chiffre 12, hein, Lévi à part, et pas Joseph, mais à la place de Joseph, donc vous avez Éphraïm et Manassé. Alors, je vous ai mis des couleurs différentes. Ce qui est en noir, selon la Genèse, ce sont les fils de Léa, donc la première femme de Jacob. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez. Sans ça, vous allez la relire. Oui, quand même. Donc ça, c'est les fils de Léa, sauf évidemment Lévi. Hein, Lévi qui est traité à part. Ensuite, ce que vous avez en bleu, ce sont les deux fils donc, de la servante de Rachel, Bilha, qui l'avait remplacée puisqu'elle a été stérile longtemps. Ensuite, en vert, les fils de Tzilpa, qui, elle, est la servante donc, de Léa, qu'elle avait aussi donc, mise à contribution. Et finalement, en rouge, alors les fils donc, de Rachel et le petit-fils de Rachel, à savoir Éphraïm et Manassé, qui sont les fruits de l'union de Joseph et de Asenet. Alors, si vous regardez un peu ces tableaux, vous voyez que l'ordre ne correspond pas vraiment à celui des naissances tel qu'il est décrit dans la Genèse. Il ne correspond pas tout à fait non plus à un regroupement par mère. En Genèse 35, qui est un texte sacerdotal, on regroupe en fait les tribus selon leur mère. Pourquoi il y a ces différences ? On les aurait presque si on n'avait pas Gad qui se met là entre Siméon et Judas. On aurait presque une sorte de regroupement par mère, donc c'est assez proche, mais pas tout à fait la même chose. Et pourquoi ? Ah. Il faut lire le chapitre 2. Parce que, en effet, dans le chapitre 2, les tribus sont en effet organisées par trois, groupées autour du sanctuaire, et donc un peu comme un camp militaire, je reviendrai là-dessus. Et le fait qu'on a mis en fait Gad en troisième position permet à Judas, en quatrième position, de prendre en fait la tête. Donc là, vous avez Rouben, Siméon, Gad, ça c'est les premiers trois. Hein, et ensuite, on a Judas, Issachar et Zabulon, qui sont le deuxième groupe et qui est donc organisé à l'est, et c'est eux qui vont partir le premier lorsque le camp se met en marche pour traverser le désert. Donc c'est d'une manière subtile, en fait, de faire monter Judas, qui évidemment n'est pas du tout le premier-né, mais c'est une manière de faire avancer Judas, d'une certaine manière, à la première place en ce qui concerne donc l'ordre de marche. Bon, maintenant ça devient compliqué. Alors, le chiffre de 603 550. Ça, c'est le total qui est donné pour ceux qui sont recensés en nombre 1. Alors, ce n'est pas tout le peuple. Hein. Donc, qui est recensé au nombre 1 ? C'est déjà la même chose en Exode 38, où vous avez déjà le même chiffre. Hein. En fait, on a recensé les hommes adultes à partir de l'âge de 20 ans. En Exode 38, c'était en fait pour pouvoir les taxer, pour qu'ils chacun donne une sorte de taxe ou contribution pour le sanctuaire. Et là, déjà, on a déjà ce recensement avec exactement le même chiffre, ce qui a fait penser déjà aux commentateurs juifs, Rashi et Nachmanide, qu'il devait s'agir en fait du même recensement, parce que c'est quand même curieux de faire deux recensements et de tomber exactement sur le même montant. Hein ? Donc, probablement, en effet, l'auteur de nombre 1 a repris ce chiffre de Exode 38. Donc, il connaissait ce chiffre et il l'a repris. Ensuite, il devait, évidemment, ce que celui de 38 ne fait pas, trouver pour chaque tribu encore un autre nombre pour que ça devienne un valeur de nombre total de 603 550. Alors, évidemment, première chose qu'on peut dire, 603 550 fait penser à quoi ? Ça fait penser à une tradition qu'on trouve notamment dans le livre de l'Exode, où on dit au moment où les Hébreux quittent l'Égypte, les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Soukhot, environ 600 000 d'hommes aptes à la guerre. Ou encore une fois, donc au nombre 11, ils comptent 600 000 fantassins, ce peuple au milieu duquel je me trouve. Donc ça, c'est le chiffre rond qui a certainement inspiré le chiffre plus précis de 603 550. Alors, première observation qu'on peut faire, c'est quoi ? Que ça fait beaucoup de monde. Parce que c'est que, comme je vous ai dit, c'est que des hommes adultes, donc pères de famille. Alors, à l'époque, un père de famille, bah, il a au moins 5-6 personnes sous sa responsabilité, donc ça nous fait un peuple de plusieurs millions qu'il faut imaginer qu'on pend dans le désert. Même assez difficile. Alors, vous savez, les exégètes, ils ne manquent pas d'idées. Donc, certains ont en effet proposé de voir les choses différemment, et pas de prendre ça comme un nombre, mais de prendre le mot « élève », « élève » qui veut dire normalement « mille ». Ils ont dit « mais là, élève, ça ne veut pas dire mille, c'est plutôt une sorte de tente, troupe, contingent ». Donc, je vous donne un exemple. Donc, le premier chiffre, le premier nombre qu'ils donnaient pour Ruben, 46 500, il ne faudrait pas le comprendre comme ça, il faudrait le comprendre comme 46 élèves, c'est-à-dire 46 contingents, totalisant 500. Donc ça veut dire un de ces élèves serait toujours entre 9 et 11 personnes. Et donc, du coup, évidemment, on arrive à des chiffres beaucoup plus bas. Donc du coup, si on calcule comme ça, on aurait pour le premier recensement 5500 personnes, donc avec 590 contingents. Et pour le deuxième, 16 contingents, faisant 5730 personnes. Est-ce que c'est mieux ? Ah, si on a une lecture historicisante, si on pense que ça a été vraiment noté par quelqu'un qui était là et qui avait assisté au recensement, évidemment, c'est plus satisfaisant, encore que ça fait aussi du monde. Mais il y a un problème quand même de grammaire, parce que le « élève » est clairement ici utilisé comme « mille », parce qu'après le « élève », on a toujours un « vœu » qui rajoute en fait la deuxième partie du nombre. Donc il faut vraiment faire violence au texte et décréter que ça ne peut pas être ça pour changer le texte. Donc je pense qu'il faut laisser le texte tel qu'il est. Il n'y a pas trop de choix. D'ailleurs, c'est un texte qui est assez stable d'une certaine manière, parce que même dans la Septante, c'est les mêmes nombres. Alors, si on veut donner une valeur autre qu'une valeur statistique à ces nombres, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? On peut imaginer, ce que vous connaissez peut-être, la gématria. Qu'est-ce que c'est la gématria ? La gématria, c'est quelque chose qui va être très populaire, surtout dans la Kabbale, mais pas seulement. C'est l'idée que chaque lettre de l'alphabet hébraïque a aussi une valeur numérique. Donc je vous ai mis ici le tableau. Après, ça continue avec les finales qui ont encore d'autres valeurs, mais bon, juste pour que vous voyez la logique. Et donc, on pourrait voir derrière des nombres, si on les transpose en lettres, peut-être des mots secrets. Ah oui. Dans la Bible, il n'y a pas tellement de cas très clairs. Il y a un cas quand même qui marche assez bien. Vous savez que en Genèse 15, Abraham a un serviteur qui s'appelle Eliezer. Et au chapitre précédent, au chapitre 14, Abraham se trouve en guerre avec les rois de Babylone et puis beaucoup de gens aussi assez obscurs. Et là, on va dire, il va partir en guerre avec 318 serviteurs. Pourquoi 318 ? Alors là, ça marche assez vite parce que le valeur numérique de Eliezer, si vous prenez chaque lettre qui constitue le nom, vous le transposez en chiffres, alors vous arrivez en effet à 318. Et après, c'est vrai que dans le judaïsme, on s'est amusé en fait à spéculer autour de ces valeurs. Alors, est-ce que ça marche pour nombre 1 ou 26 ? En nombre 1, Dieu dit à Moïse et à Aaron, faites le dénombrement de toute l'assemblée des fils d'Israël, Rosh, donc ce ou et Rosh, Kol, Adat, Bene, Israël. Alors, si on prend Rosh, Kol, la tête de tout, on a donc 551. Et si vous prenez Bene Yisrael, je vous l'ai présenté là, vous avez 603. Donc vous avez 603, 551. Il y en a un de trop. Bon, alors après, on peut dire que c'est Moïse, parce qu'il n'est pas compté là-dedans. Vous pouvez aussi prendre, non pas Rosh Kol, mais vous pouvez prendre Kol et Dat, donc la totalité de l'Assemblée. Alors à ce moment-là, vous trouvez en effet le chiffre exact de 603 et 550. Donc c'est 603 et pas 603. Le problème avec cette théorie, c'est lequel ? Le problème avec cette théorie, en fait, pardon, le problème avec cette théorie, c'est que ce n'est pas la totalité des fils d'Israël. Pourquoi ce n'est pas la totalité des fils d'Israël ? Parce que, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, si vous prenez encore une fois le tableau, dans cette totalité, il manque Lévi. Donc, ce n'est pas la totalité des fils d'Israël. Donc, du coup, ce 603, 550 ne peut pas, à mon avis, être ça. Puisque, après, dans les chapitres qui viennent, on va en effet avoir un recensement très complexe et très compliqué des Lévites. Je ne vais pas aller dans tout le détail. Les Lévites, en fait, sont censés en fait, de se substituer, selon la théorie des nombres, au premier-né d'Israël, parce qu'il y a une loi qui dit « chaque premier-né doit être consacré à Yahvé ». Et on va en fait considérer que pour accomplir cette loi, c'est la tribu des Lévites en fait, qui est consacrée dans son ensemble au service de Yahvé, et donc il rachète d'une certaine manière les Israélites. Alors donc on arrive à un total de 22 030, alors que nombre 3 indique plutôt 22 000, et ce qui dépasse en fait d'une certaine manière des 273 par rapport en fait à au rachat que les Lévites doivent faire. Donc pour ça, ils font d'abord ensuite compenser. Après, on a un autre compte des Lévites entre 30 et 50 ans, c'est-à-dire c'est ceux qui sont en service. Et finalement, en nombre 26, on donne encore une fois un autre chiffre pour les Lévites qui augmente aussi légèrement à 23 000. Donc ça veut dire que cette gématria qui interprète les 603 550, dans le sens que c'est toute l'assemblée des fils d'Israël, bah, ça marche au niveau du chiffre, mais ce n'est peut-être pas tellement l'idée, puisque les Lévites, bah, voilà, ils sont comptés en plus, donc il faudrait certainement les rajouter d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas toute l'assemblée. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? D'abord, faisons un petit détour et rappelons que, en fait, le décompte que vous avez en nombre 1 et en nombre 26, c'est un décompte en fait, qui considère des hommes capables à prendre les armes. Si nous partons de l'hypothèse que c'est un texte récent, et si nous prenons en considération ce que nous savons des recensements de l'armée perse, alors là, ça devient intéressant. Puisque nous avons plusieurs auteurs antiques, Hérodote, Strabon et d'autres, qui nous renseignent sur l'armée perse, en disant par exemple que le service militaire commençait chez les Perses à 20 ans. Et comme par hasard, en nombre 1, c'est les Israélites à partir de l'âge de 20 ans. Ensuite, on apprend aussi chez Clitarque d'Alexandrie que l'armée perse aurait été organisée en 12 unités, ben, comme les 12 tribus. Et si vous prenez ces textes de Hérodote, c'est un texte qui est quand même très intéressant. Parce qu'on va lire que, voilà, là, donc il décrit en fait le camp des Perses, comment ils se mettent en marche. Et le signal du départ est donné par une trompette. Si vous avez bien lu nombre 10, il y a aussi la trompette qui se met à sonner au moment du départ. Ensuite, au-dessus de la tente du roi, brillait l'image du soleil et le feu. Et pensez à la colonne du feu que vous avez en nombre 10. Après, un char consacré à Jupiter, donc Ahura Mazda, probablement, puisque c'est un auteur romain qui nous parle là. Et pensez à ce que nous avons, en fait, en nombre 10, par rapport à l'arche. L'arche est aussi là, donc je vous ai montré ça la semaine dernière. Et donc, la cavalerie des 12 tribus. C'est quand même beaucoup des choses pour être simplement dues au hasard. Donc je pense en effet que l'auteur des premiers chapitres et des nombres a voulu représenter l'armée de Yahvé avant la conquête à l'image de l'armée perse. Ce que je vous ai dit aussi, cette idée que les tribus s'organisent en unité de trois autour d'un camp, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans les autres livres du Pentateuque. Donc l'idée peut prendre de peut venir de là. Et puis, on observe aussi qu'il y a une tendance à augmenter les nombres. Vous voyez ça dans les livres des chroniques, hein, qui sont plus récents que les livres des rois, où là aussi, tout d'un coup, l'armée judéenne devient plus grande que l'armée des Perses. Même déjà dans les textes assyriens. Par exemple, dans un texte, Sennacherib, quand il fait sa campagne dans le Levant, il se vante d'avoir fait 200 150 prisonniers à Jérusalem, alors que Jérusalem, à cette époque, a peut-être 20 000 habitants. Et ce qui est intéressant, et ça rappelle aussi un tout petit peu les nombres, c'est que c'est aussi un chiffre qui n'est pas un chiffre rond, un chiffre qui semble être très précis, mais c'est peut-être un peu le souci de faire vrai. Donc au lieu de dire 200 000, ben, je vais dire un truc un peu plus précis, hein, et ça donne l'impression, ça devient plus vrai. Idem, Hérodote qui nous dit que l'armée perse aura eu plus qu'un million d'hommes. Alors vous imaginez une armée avec un million d'hommes qui se met en marche. Donc on a cette tendance, donc certainement aussi dans Nombres 1 et 26. Alors, de nouveau, on peut revenir au fait que ça tourne autour de ce chiffre de 600 000 qui est probablement connu par l'auteur, qui lui vient probablement de la tradition sacerdotale et qui, évidemment, aussi est au service d'un message théologique. C'est d'abord pour montrer que les promesses de multiplication qui ont été données à Abraham, Isaac et Jacob lorsqu'on disait « ta descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer ou que les étoiles au ciel », que ça commence à s'accomplir, encore qu'on peut encore les compter, selon le livre des Nombres. Mais en effet, si nous reprenons les textes de la Genèse, mais aussi en Deutéronome, on dit que lorsque Jacob descend en Égypte, sa famille compte 70 personnes. En Genèse 15, Dieu, dans une sorte de vision prophétique, dit à Abraham que sa descendance sera 400 ans en Égypte. Alors 400 ans, ce n'est pas tout à fait la théorie qu'on a dans le livre de l'Exode, parce qu'on a l'impression que ça se passe très vite, qu'il n'y a que juste deux pharaons qui se succèdent. Hein. Mais là, 400 ans. Alors 400 ans, c'est quoi? Pour dire de nouveau, si on prend les nombres, ça pourrait être 10 générations, si on prend comme moyenne d'une génération 40 ans. 40 ans dans le désert, la mort d'une génération. Alors du coup, si vous pensez encore à Nombre 23, où le prophète moabite Balaam prononce cette question, qui peut compter la poussière de Jacob et les dizaines de milliers d'Israël? Alors si vous multipliez 70 par 10 000, vous arrivez à 700 000. Donc, et puis, si vous le comptez divisé par 12 pour avoir la place encore pour Lévi, vous arrivez à quelque chose de 640 000. Alors, est-ce que c'est des calculs comme ça? Possible. Comme je suis très nul en mathématiques, je suis allé voir sur Internet qu'est-ce qu'on peut dire sur le chiffre 603 550. Et il y a quand même une chose qu'on peut dire, c'est que c'est un nombre qui est divisable par 12 autres nombres. Et comme il y a 12 tribus, on peut quand même se poser la question si c'est un simple hasard ou si on n'avait pas là quelqu'un qui a fait des études de mathématiques à Babylone. C'est possible. C'est tout à fait possible. Je vais vous donner encore quelques d'autres indications. Je pense que ce n'est pas par hasard que 603 550 peut être divisé par 12 autres nombres, comme les 12 tribus. Alors, on peut aussi évidemment s'intéresser à ce qui se passe entre le premier et le deuxième recensement, parce que là aussi, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Il y a des tribus qui deviennent plus importantes. et à des tribus qui perdent beaucoup. Alors d'abord, quand on regarde les chiffres, ben on voit quand même que Juda, dans les deux cas, est la tribu la plus importante. Donc ça, c'est clair. Maintenant, si vous prenez Ephraïm et Manassé ensemble, vous arrivez à peu près au même chiffre. Et alors, si Ephraïm et Manassé sont, si de nouveau on est dans l'époque perse, si Ephraïm et Manassé symbolisent la province de Samarie, où il va y avoir un sanctuaire yahviste, et si le Pentateuque est justement ce compromis entre la Samarie et Jérusalem, ben on pourrait se dire qu'on a une certaine volonté de mettre Juda, Ephraïm et Manassé sur le même niveau. Alors, on peut aussi penser, en effet, à Caleb et à Josué, qui sont en effet les deux des espions qui, contrairement à leurs collègues, sont tout à fait d'accord de se mettre en place pour la conquête. Et donc, du coup, Juda a beaucoup de monde. Alors, pour Ephraïm, c'est un peu difficile parce qu'Ephraïm semble perdre, mais dans la deuxième partie, il y a une confusion apparemment entre Ephraïm et Manassé, parce que Manassé est mis avant Ephraïm. Donc, probablement, il faudrait plutôt penser à 50 700 pour Josué. Donc, du coup, on pourrait aussi mettre cela en rapport avec cette histoire. Et puis, finalement, la tribu qui fait une chute dramatique, une tribu qui n'a jamais existé, c'est une tribu inventée, la tribu de Siméon, c'est certainement lié à l'histoire du nombre 25, puisque c'est justement un descendant de Siméon qui provoque la colère et le fléau, puisqu'il a couché avec une femme madianite. Et à la suite de cela, en fait, un grand fléau va s'abattre sur les Israélites. Donc, je pense qu'on peut en effet aussi s'intéresser aux différents changements qui interviennent dans dans l'importance ou la chute de certaines tribus, qui certainement a aussi ses raisons. Mais pouvoir, jusqu'à maintenant, pouvoir expliquer chaque nombre, c'est très difficile. Je pense que le 603-550, ça peut venir des spéculations mathématiques, et après, il fallait y faire figurer les 12. Alors, on peut peut-être aller encore un tout petit peu plus loin, si vous avez encore le courage de me suivre. On peut penser à l'astronomie. Parce que les Babyloniens étaient forts en mathématiques, ils étaient aussi forts en astronomie. Et donc, si on part de l'idée que l'auteur de nombre 1, c'est quelqu'un qui a fait ses études à Babylone, ou qui a eu peut-être un père qui a fait ses études à Babylone lors de l'exil, ben, on peut penser en effet qu'il y a quelques influences. Donc, on a déjà vu 600, alors ça, c'est pas un problème, 600 000, c'est 12 fois 50 000. Mais ce qui est intéressant, en effet, aussi, c'est, comme l'a observé Michel Barnouin, c'est la plupart des chiffres reflètent en fait un système sexagésimal, et pas en 10. Un système en 6, qui est typique justement des mathématiques babyloniennes. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, que donc, par rapport à ces 50 000 qui ont fait le 12e de 600, dans les deux recensements, il y a 6 tribus qui sont au-dessus et 6 tribus qui sont au-dessous. Donc ça aussi, c'est probablement pas simplement un hasard. Les 12 tribus, si on fait maintenant un peu la spéculation astronomique, c'est évidemment aussi 12 mois. Zodiaque, si vous voulez. Premier total de Benjamin. Si vous laissez du côté les zéros, 354. 35 400. Donc, M. Barnouin pense en fait qu'on peut laisser les zéros, zéros de côté. 354, c'est l'année lunaire, qui est important pour les Babyloniens. Et dans le recensement qui est en lien avec dans l'offrande, pardon, qui est en lien avec le premier recensement en 38, on dit en effet qu'il faut offrir pour le sanctuaire 29 talents et 730 sicles, shekels, si vous voulez. Alors 29, un mois lunaire, 730, deux fois 365, donc l'année solaire, qui se divise, donc je suis simplement, je ne suis pas souscrit à tout ça, donc je vous présente l'hypothèse, 365 qui se divise en trois semestres de 91 et un quatrième semestre de 92. Et puis, en nombre 3, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 273 personnes à racheter, premier-né, et ça fait justement trois semestres à 80 ans jour. La différence entre les deux recensements, donc ce qui change au niveau du chiffre, est de 1820, ce qui pourrait faire 20 fois 91, donc 20 fois les trimestres de l'année solaire. On peut encore aller plus loin. Il y a deux nombres qui sont attestés de manière identique, mais pour des tribus différentes. 405, donc toujours en laissant du côté le 2-0 à la fin, hein, 405 apparaissent deux fois, une fois pour Manassé, une fois pour Gad, et 534, une fois pour Neftali, une fois pour Asher. Bon. Et si, mais il faut le faire, si on les ajoute au chiffre de base, qui est 6000, toujours sans les zéros, on arrive à 6939. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai appris aussi, je ne savais pas que ça existe. C'est le cycle de Méton. Méton a un astronome de l'Antiquité qui avait remarqué que 19 années solaires correspondent à 535 mois lunaires, c'est-à-dire 5039 jours. Bon, est-ce que tout ça est convaincant ? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce qu'il y a beaucoup de... Il trouve encore aussi des années de Vénus et tout ça, mais le problème, c'est que c'est très sélectif. C'est très sélectif. Hein, et donc, il va aussi chercher, justement, dans Exode 38, et puis il n'a pas, jusqu'à maintenant, j'ai suivi toutes ses publications, c'est un homme qui est passionné par son idée, mais il n'a pas donné l'explication pour chaque chiffre. Et donc là, la clé de lecture semble quand même un tout petit peu difficile. Si c'était évident pour chaque chiffre, alors sans problème. Qu'il y a un peu de spéculation mathématique, ça je pense tout à fait. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer à l'ensemble des nombres qui sont présentés ? Je serais prudent. Alors on peut avoir une attitude un peu prudente, comme l'a aussi Jacob Milgrom, qui dit en fait que l'auteur peut-être, en effet, était influencé par le savoir mathématique et astronomique des Babyloniens et voulait identifier les 12 tribus d'une certaine manière avec l'armée céleste de Yahvé qui, dans les textes anciens, est en effet constituée des astres, des planètes, etc. Parce que c'est vrai, je vous ai fait grâce de l'ensemble des spéculations. On peut aussi trouver encore les jours que fait la planète Vénus pour passer autour du Soleil. Il y a plein d'autres choses encore. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas pour l'ensemble. Donc, pour résumer, je dirais, l'auteur s'est sans doute inspiré d'un calcul mathématique. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui connaissait les mathématiques, qui a peut-être en effet inventé les 603 550 à partir du chiffre de 600 en cherchant un chiffre divisable sur de 12 autres nombres. Et ça, ces choses-là, les Babyloniens le savaient. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il a sans doute aussi voulu suggérer des prééminences et des chutes par rapport à certaines des tribus et peut-être aussi montrer en fait que derrière ce recensement, il y a en effet le recensement connu dans l'Antiquité de l'armée perse, mettant ainsi Israël dans le désert au même niveau que la grande armée du grand roi. Donc je pense que c'est ce qu'on peut dire sur ces chiffres. Si, au fur et à mesure de mes réflexions, je trouve d'autres idées, je évidemment me dépêcherai de vous les communiquer. Mais si vous en avez aussi, alors je suis tout à fait preneur aussi, donc je prends volontiers d'autres idées. Mais pas des idées où on va nous montrer que ça peut exister comme ça, que c'est quelqu'un qui a noté ça au moment où ça s'est passé, je crois. Ça, c'est peut-être pas la bonne piste. Voilà. Alors venons maintenant à ce rituel qui concerne la femme adultère. Donc ce rituel, en fait, se trouve dans ce que je viens vous montrer, dans les suppléments à la loi, entre 5 à 10 et la loi sur le nazir, qui est quelqu'un qui se consacre à Yahvé et qui, d'une certaine manière, se trouve aussi en marge de la communauté. Ce rituel est lié, en fait, au rituel ou au texte qui les entoure par des mots-clés. Un mot-clé, c'est tamé qui veut dire impur ou impureté. Ça, c'est un mot qu'on trouve en effet dans le passage qui précède, où les questions des personnes qui, pour toutes sortes d'impuretés, doivent s'éloigner du camp, mais aussi dans l'histoire du nazir, au chapitre suivant, dont on va dire là, lorsqu'il va être en contact avec un cadavre, il devient impur, il doit donc interrompre sa situation de consacré et se reconsacrer à nouveau. Donc c'est un peu ce que Martin Buber avait appelé les Leitwörter, les mots-clés, qui souvent structurent des ensembles bibliques. Donc ça, c'est une très bonne observation. Vous voyez que beaucoup de passages de la Bible sont en fait liés entre eux par des mots-clés, hein, qui n'ont pas forcément le même sens dans toutes les utilisations, mais qui font une certaine cohérence. On peut aussi observer quelque chose de similaire pour la racine ma'al, qui veut dire être infidèle, et qu'on trouve donc aussi déjà au chapitre 5 et ensuite deux fois donc dans notre passage. Donc nous avons en effet là clairement un texte qui se veut un complément aux lois sur l'adultère. Donc l'adultère, en effet, c'est un problème important dans les cultures du Proche-Orient ancien, pas seulement dans les cultures du Proche-Orient ancien. C'est un peu général, aujourd'hui c'est un peu différent, mais... Et puis ce qui est surtout différent, c'est ce qu'on entend quand on parle d'adultère. Donc parce qu'évidemment, il n'y a pas faim. Des milieux, qu'est-ce qu'il faut dire ? Des gens qui pensent en effet qu'ils peuvent régler des questions d'éthique sexuelle en citant des textes bibliques. Alors bon, on peut citer le Décalogue, tu ne commettras pas d'adultère. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait à l'époque ? Alors le fait que ça se trouve dans le Décalogue montre en effet que cet interdit est un interdit tout à fait fondamental, puisque le Décalogue est une sorte de résumé de ce qui fait en fait l'essence même de toute la législation au Sinaï, ça c'est clair. Mais il ne s'agit pas en fait en premier lieu d'une question d'éthique sexuelle, c'est beaucoup plus une question juridique, une question d'identité, une question politique, tout ce que vous voulez. Donc il faut vous rappeler que évidemment, ces textes ont vu le jour où l'homme est en effet considéré comme étant le propriétaire de la femme. D'ailleurs, il y a le terme. Donc l'homme, quand il se marie à une femme, il devient son Baal. Baal, c'est le maître et le seigneur. Et la femme qui est épousée, elle devient une Baoulat. On ne peut même pas traduire, c'est le participe passif. Celle qui est posséder, non pas posséder, celle qui a un propriétaire, vous comprenez l'idée. Donc, hein. Et donc, l'adultère, ce qu'on appelle nous l'adultère, c'est surtout une atteinte à la possession d'autrui. Donc, si un homme va voir une prostituée, couche avec elle, ce n'est pas un adultère. Vous connaissez l'histoire de Judas, hein, en Genèse 38. Ce n'est pas un problème. Le problème se pose lorsque, en fait, vous couchez avec une femme mariée. Et la sévérité des lois que je vais vous présenter tout de suite, la sévérité de ces lois, en fait, s'explique par plusieurs raisons, mais par deux raisons principales. Le premier, justement, c'est cette idée, en fait, on ne peut pas porter atteinte à la propriété d'autrui. Donc même, vous allez le voir tout de suite, vous allez coucher avec une femme qui n'est pas mariée, s'il n'est pas fiancé, si vous êtes d'accord de l'épouser, c'est bon aussi. Et on ne demande pas tellement l'avis à la femme, évidemment. Mais peut-être la deuxième raison, peut-être c'est ça la raison la plus, et puis qui est aussi en quelque sorte derrière le texte que nous allons voir, la deuxième raison, c'est une angoisse très masculine, surtout en absence de test de DNA. Comment un homme qui voit sa femme enceinte, comment il peut être sûr que l'enfant est de lui ? Aujourd'hui, on peut faire des tests. À l'époque, c'était difficile. Donc, chaque grossesse de la femme était un moment d'angoisse. Bon, ça dépend après des caractères, sans doute. Mais on peut imaginer, de ce que je vais vous présenter au nombre 5, que c'était quand même un moment difficile pour l'homme. Ça dépend aussi, évidemment, de toutes sortes d'autres religions et de relations. Mais, donc, d'où l'idée de sanctionner ce qu'on appelle, nous, adultère, de manière très forte, pour justement éviter de telles angoisses, qui étaient sans doute pas fondées. Et si vous regardez le livre du Deutéronome, vous avez au chapitre 22 toute une série des lois qui, en partie, s'inspirent du Proche-Orient ancien, mais parfois sont encore plus radicales que les textes que nous avons dans les lois assyriennes ou dans le code de Hammurabi. Donc là, il y a un premier cas. C'est un homme qui s'est marié et qui est allé, donc il a couché avec elle et qui ne l'aime pas. Ça veut dire quoi, qu'il ne l'aime pas ? Ce n'est pas de nouveau un sentiment, c'est une sorte de... de rejet de la femme parce que il trouve qu'elle n'est pas vierge. Donc, elle n'a pas le signe de la virginité. Et donc, c'est ensuite à la famille. Ça, c'est des coutumes que vous connaissez peut-être encore aujourd'hui dans certaines régions du monde. Il faut prouver après la nuit nuptiale que la fille a été vierge. Alors, si ils peuvent le prouver, l'homme doit payer une compensation. Mais si on ne peut pas le prouver, donc si on peut avoir un soupçon que la fille n'a pas été vierge, elle est tuée sous le coup. Donc vous voyez, il n'y a pas d'égalité là de traitement. Et puis, contrairement à des lois assyriennes, c'est la famille de la femme qui doit prouver, en fait, qui doit fournir, sous soupçon du mari, les preuves du fait que le mari s'est trompé. Après, vous avez d'autres cas dans le verset 22 qui a un parallèle dans le livre du Lévitique. Quand un homme couche avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort, l'homme adultère aussi bien que la femme adultère. Donc là, les deux, en fait, là, il y a traitement égal pour un adultère qui est découvert en flagrant délit. Il faut vous imaginer quelqu'un d'autre dans la tente, ou je ne sais pas. Voilà. Alors, avec la mise à mort des deux. Là, si vous prenez le code d'Hammurabi, c'est un peu plus... Bon, évidemment, ce n'est pas apprécié. On dit si l'épouse d'un homme a été prise alors qu'elle couchait avec un autre mâle, on les liera et on les jettera à l'eau. Bon, même chose. Mais si le propriétaire de l'épouse fait grâce à son épouse, ben, le roi graciera aussi son serviteur, c'est-à-dire probablement l'homme adultère. Donc ça veut dire que contrairement au texte biblique, le code Hammurabi prévoit en fait la possibilité d'un pardon, également dans les lois assyriennes. Et puis, un dernier cas où la femme est prise de force, où il s'agit de viol en fait. Et là, on va faire une distinction entre une jeune fille vierge fiancée, donc déjà promise à quelqu'un, et une jeune fille non fiancée. Si la jeune fille vierge est non fiancée, bah c'est très simple, comme je vous disais. Si l'homme qui a couché avec elle la prend comme épouse, il n'y a pas de problème. Il paye une petite compensation dot au père de la fille et puis il la prend comme épouse. Alors pour une fille vierge fiancée, c'est différent. Donc si ça se passe dans la ville, les deux sont mis à mort. Si c'est à la campagne, bah, la fille est épargnée parce qu'on peut se dire qu'elle a crié et personne ne l'a entendue. Dans la ville, on va dire que ce n'est pas possible parce que dans la ville, même si, donc si vous criez, quelqu'un va... Évidemment, c'est un village, mais bon, ce qu'on a traduit par ville. Alors, par contre, les lois assyriennes, là aussi, sont plus soft d'une certaine manière parce qu'ils admettent aussi qu'on peut crier dans la ville et là aussi, la fille, de nouveau, est épargnée. Donc, ça vous montre, en effet, que les textes bibliques sont devenus plus durs que les textes babyloniens assyriens, qu'il y a un durcissement. Un durcissement vraiment très fort, évidemment toujours au détriment de la femme. Et c'est dans ce contexte-là que nombre 5 joue un rôle tout à fait intéressant et important. Parce que c'est un complément un peu subversif quand même. Alors je vais vous lire encore le texte et puis on va le reprendre. Bon, je vais vous faire encore quelques commentaires, on a encore un petit moment. Donc on va regarder ensemble le texte. C'est un texte assez curieux, mais qui, d'une certaine manière, veut un tout petit peu, me semble-t-il, désamorcer certaines des prescriptions du Deutéronome. C'est aussi un peu dans ce sens-là que le judaïsme l'a compris. Alors, regardons ce texte. Yahvé parle à Moïse, parle aux fils d'Israël. Tu leur diras, si un homme dont la femme s'est détournée et lui a été infidèle, et un homme a couché avec elle littéralement une couche de semence, donc a couché avec elle jusqu'à l'éjaculation, donc qu'il y a possibilité de grossesse, et cela a été caché aux yeux de son homme, son mari, elle s'est dissimulée, elle s'est rendue impure, mais il n'y a pas de témoins, donc il n'y a pas de témoins contre elle. Elle n'a pas été prise. Et alors, un esprit de jalousie passe sur lui, donc sur le mari, et il devint jaloux de sa femme, alors que celle-ci s'est rendue impure. Ou bien, un esprit de jalousie passe sur lui, alors que celle-ci ne s'est pas rendue impure. Donc, vous voyez, il y a deux possibilités. Alors, dans les deux cas, ça, c'est moi qui rajoute, l'homme amènera sa femme au prêtre et il apportera un don pour elle, à son sujet. Un dixième des fats de farine d'orge, c'est 2 litres. Il n'y versera pas d'huile, n'y mettra pas d'encens. En effet, c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir rappelant une faute. Le prêtre la fera approcher et il la placera devant Yahvé. Le prêtre prendra des eaux saintes. Alors là, qu'est-ce que c'est des eaux saintes? La Septante, le texte grec parle des eaux pures, d'autres des eaux d'un bassin, on reviendra là-dessus. Donc les eaux saintes dans un vase d'argile, et le prêtre prendra de la poussière qui se trouve sur le sol de la demeure, du sanctuaire ou de l'autel, dit le Syriaque, et il la mettra dans les eaux. Le prêtre placera la femme devant Yahvé. Il déferra les cheveux de la femme, littéralement de la tête. Il posera dans ses mains, les mains de la femme, le don du souvenir, c'est-à-dire le don de la jalousie, et dans la main du prêtre seront les eaux amères. Donc les eaux saintes sont devenues les eaux amères. Le Pentateuque samaritain parle plutôt des eaux qui éclairent, hein, donc qui sont des eaux un peu du jugement. La Septante un peu similaire, des eaux du reproche, provoquant une malédiction. Hein, provoquant une malédiction, ou alors là, de nouveau, le Syriaque a ici éclairant, comme dans les autres versets. Le prêtre fera prêter serment à la femme et lui dira « Si aucun homme a couché avec toi, et si tu ne t'es pas détourné, impureté sous ton mari, vous comprenez ce que ça veut dire, impureté sous ton mari, sois innocente par ces eaux amères provoquant une malédiction. Mais si tu te détournais sur ton mari, et si tu t'es rendu impur, et si un homme a couché avec toi, autre que ton mari, et ça s'interrompt, et puis le prêtre fera prêter serment, donc ça fait un peu une coupure, le prêtre fera prêter serment à la femme par un serment de malédiction, le prêtre dira à la femme que Yahvé te livre à la malédiction et au serment au milieu de ton peuple, lorsque Yahvé fera que ton appareil génital dépérisse et que ton utérus soit enflé. Bon, il faut regarder ces termes qui sont compliqués, mais à mon avis, c'est grosso modo ça. Ces eaux provoquant une malédiction entreront dans tes entrailles pour faire enfler ton utérus et pour faire dépérir ton appareil génital. Et la femme dira, pardon, Amen, Amen. Elle n'a pas beaucoup de choix, elle n'a pas beaucoup de choix. Et le prêtre écrira, et encore autre chose, le prêtre écrira ses malédictions dans un rouleau et les effacera dans les eaux amères. Il fera boire à la femme les eaux amères, provoquant la malédiction, et entreront en elle les eaux provoquant la malédiction au vu de l'amertume. Et le prêtre prendra de la main de la femme le don de la jalousie. Il présentera en l'élevant le don devant Yahvé, et il la fera approcher, donc la femme, vers l'autel. Le prêtre prélèvera du don son azkara, c'est-à-dire la partie qu'on va brûler, il la brûlera sur l'autel. Après, il fera boire les eaux à la femme. Si vous vous souvenez, il a déjà fait boire la femme. Il lui fera boire l'eau. Alors, il arrivera, la chose suivante, si elle s'est rendue impure, c'est-à-dire si elle a été infidèle à son mari, alors entreront en elle les eaux provoquant la malédiction en vue de l'amertume, son utérus enflera, son appareil génital dépérira et cette femme deviendra une malédiction au sein de son peuple. Et si la femme ne s'est pas rendue impure, mais si elle est intègre, elle sera innocentée et elle, littéralement, elle sera ensemencée de semences en hébreu. Donc, soit l'homme couche de nouveau avec elle ou qu'elle reste féconde. Et conclusion, c'est la Torah concernant la jalousie. Lorsqu'une femme se détourne de son mari et se rend impure, ou un homme sur lequel passe un esprit de jalousie, il devient jaloux de sa femme, il place la femme devant Yahvé et pour elle, le prêtre exécute cette Torah. L'homme est innocenté d'une quelconque faute, mais cette femme portera sa faute. Voilà. Donc c'est en effet un texte assez curieux, mais très intéressant. Probablement un texte, si vous avez suivi, qui n'est pas fait d'un seul trait. Je vous montre juste quelques exemples. D'abord, ça c'est quand on regarde l'hébreu. Le terme qui est utilisé pour parler de l'esprit de jalousie, « ruach », hein, Ruach, en effet, qui signifie l'esprit, l'orage, le vent, etc. Il est construit au verset 14 au masculin, alors qu'au verset 30, le mot est construit au féminin. Alors, c'est possible en hébreu, vous pouvez dire. Mais si c'est un auteur, c'est quand même difficile d'imaginer qu'il utilise tantôt le féminin, tantôt le masculin pour la même expression. On voit aussi qu'il y a des interruptions. Donc, toi, si tu t'es détourné de ton mari, un homme accouche avec toi, à l'exception de ton mari, alors que ces eaux provoquent une malédiction. Donc, vous pouvez très bien passer du verset 20 au 22, hein, alors que le 21 interrompt. Donc, probablement, pourquoi il interrompt ? Parce que on parle de Yahvé. Avant, on a l'impression que c'est une sorte de rituel magique. C'est les eaux, en fait, en elles-mêmes qui ont ce pouvoir de amener le jugement, alors que le verset 21 a sans doute été ajouté, hein, pour dire que l'auteur de tout ça, ce n'est pas les eaux amères, c'est bien Yahvé. De même, le prêtre, il fait approcher deux fois la femme à l'autel, vous voyez, le prêtre, il va faire approcher, il la placera devant Yahvé, et encore une fois, au 18, et même encore une fois, tout à la fin, mais là, c'est une sorte de résumé. Une répétition similaire se trouve entre les versets 24 et 26. Vous vous souvenez tout à l'heure qu'il fait boire au moins deux fois la femme. Finalement, je crois que c'est même trois fois. Donc, où, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça veut dire que c'est des sortes de reprises de « Wiederaufnahme », comme disent les Allemands, où le texte entre les répétitions indique que le prêtre en même temps fait autre chose et puis on revient, en fait, du côté de la femme ? Ou est-ce que il s'agit de la combinaison, en fait, de deux rituels différents. Dernière chose qu'on peut encore dire, donc, c'est que, en effet, la fin originelle, c'est sans doute simplement le début du verset 29, c'est la Torah concernant la jalousie. Et après, on répète les choses et surtout, on ajoute tout cela pour parler, en fait, de l'homme. Parce que jusqu'à l'homme a amené la femme et puis il a disparu de la scène. Et à la fin, on dit bon, il faut le faire de toute façon, même s'il se trompe, il ne lui arrive rien. C'est ça l'idée, hein, il sera innocenté de toute faute. Donc je pense en effet, ce qu'on peut dire, c'est que apparemment il y a deux rituels qu'on a combinés. Il y a un rituel où la femme prête simplement un serment, affirmant son innocence, et un rituel durant lequel il devait boire des eaux dites amères. Il faut qu'on regarde la semaine prochaine qu'est-ce que ça veut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Code Hammurabi, vous avez aussi les deux cas. Hein, si l'épouse d'un homme, son mari, l'a mise en cause, donc le mari qui met en cause, s'il n'a pas été surprise alors qu'il couche avec un autre mâle, elle prononcera le serment par le Dieu. C'est tout. Et il retourne à la maison. C'est assez bien. Après, il y a une autre loi. Donc ça, c'est si l'homme la soupçonne. Par contre, s'il y a une sorte de rumeur publique, si l'épouse d'un homme a été montrée du doigt à cause d'un autre mâle, mais s'il n'a pas été surprise, alors qu'elle couchait avec un autre mâle, pour son mari, elle devrait plonger dans le fleuve. Alors ça, c'est moins drôle. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la suite, en fait, d'un serment et puis de ce qu'on appelle, nous, une ordalie. Hein ? Et c'est exactement ce que vous avez, en fait, à l'intérieur de nombre 5. Hein ? Vous avez, en effet, une sorte de combinaison d'un rituel de serment et d'un rituel impliquant l'eau. Non plus par l'immersion dans un fleuve, qui signifie, à mon avis, la mort, parce qu'on va les lier, hein, mais par la consommation d'un liquide. On va essayer de voir un peu ce que ça peut être la semaine prochaine, mais c'est sans doute quand même un peu inspiré de cela. Et là, il y a un article de Jeong John sur les deux lois dans le passage de la sota, de la femme adultère, qui, en effet, je pense, montre assez bien que le rituel d'ordalie les eaux est probablement dans ce texte le rituel le plus ancien qu'on a repris en le combinant avec, le serment, hein, pour en faire en fait quelque chose qui est presque plus littéraire que rituel. Parce que déjà, les rabbins étaient très embêtés, je vais vous montrer ça la semaine prochaine, C'est très embêté parce que c'est très compliqué à mettre en place tout ce rituel. Voilà. Alors, la semaine prochaine, donc, nous verrons un peu comment il faut comprendre cette complexité. Et puis, je vais aussi vous parler de la bénédiction sacerdotale, qui est très intéressante. C'est un tout petit texte, donc on peut faire les deux choses la semaine prochaine, qui, en effet, a ce parallèle dans les amulettes, qui est en fait le premier texte de la Bible qu'on a en dehors de la Bible au 5e siècle. Et puis, je voudrais encore, avant que vous partiez, vous inviter à une conférence d'un collègue qui nous vient du Japon, mais qui parlera français, et qui, donc, mercredi prochain, le 8 mars, à 14h30, va donner une conférence « Comment l'archéologie peut éclairer la Bible ?» avec des exemples assez intéressants. Donc, si vous avez un moment, bah, venez l'écouter. Ce sera certainement une belle conférence. J'ai quelques petits cartons, mais qui ne sont pas nécessaires. Si vous l'avez noté, ça va très bien. Alors, très bonne semaine, et peut-être à mercredi ou à jeudi prochain.